silencieuse. Elle timide. Nouvelle partie 1/2. Cette histoire terrifiante est terminée. Mais l'horreur des deux derniers mois restera en moi aussi longtemps que je vivrai. Demain, la jeune fille que j'ai soignée sera mariée. Pour elle, j'ai souffert et j'ai failli mourir. On souffre pour ce qu'on aime. C'est la loi de la vie. Je suis une femme de bonne naissance et une infirmière de profession. Au début de l'hiver de l'année dernière, on m'a demandé de m'occuper d'une affection nerveuse. Ma patiente était une jeune fille du nom de Leonora Trefusis. Elle n'avait que 19 ans. Elle avait un beau visage, mais elle devait sa beauté non seulement à des traits classiques et à la grande fraîcheur de la jeunesse, mais aussi à une expression toujours changeante et charmante. Elle était cependant victime d'une détresse nerveuse aggravée. Ce trouble avait été provoqué par une histoire d'amour malheureuse. Il y a 2 ans, elle avait été fiancée à un galant officier au service de Sa Majesté. Le capitaine Gifford appartenait à un régiment de cavalerie. Leonora et lui s'aimaient depuis leur enfance. Et il espérait revenir en Angleterre d'ici 1 an pour réclamer sa fiancée. Cependant, il fut la proie d'une des nombreuses échauffourées qui se produisent toujours à la frontière nord-ouest de l'Inde. Leonora apprit que son amant avait été tué au cours d'une rencontre avec des tribus rebelles. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et ce coup terrible et inattendu a complètement prostré la jeune fille. Pendant un certain temps, elle fut inconsolable. Et puis, se produisit cet effondrement des nerfs et de sa santé physique qui exigeait spécialement mes services. J'obtins d'elle qu'elle me confie ses chagrins. Elle parlait souvent du capitaine Gifford et de l'amour qu'elle lui portait encore. Une ou deux fois, elle m'a dit, anxieuse, « Chère infirmière, il n'est peut-être pas mort après tout. » Je secouais la tête. Je savais que ce serait une erreur de donner de faux espoirs à ma patiente. Bien sûr, le vaillant capitaine était mort. Sinon, nous aurions entendu parler de lui depuis longtemps. Peu à peu, lentement et sûrement, Leonora commença à se rétablir. Et peu après, à mon grand étonnement, elle se fiança à un certain monsieur Hertzley, l'un des chirurgiens les plus habiles de Harley Street. J'avais déjà soigné des patients pour monsieur Hertzley, mais je n'avais jamais imaginé un seul instant qu'il était un homme à marier. Il avait une apparence dure et sèche. Pas plus de 35 ans, mais il semblait beaucoup plus âgé. Sa peau était d'un olive profond. Il était d'une grande maigreur et avait l'air nerveux et alerte. Ses yeux étaient noirs comme la nuit. Il avait aussi des cheveux noirs coupés ras. Ses manières étaient vives et décidées. Il ne disait jamais un mot inutile et semblait toujours engagé dans des spéculations abstruses. Monsieur Hertzley était un spécialiste du cerveau. J'ai eu le privilège de soigner pour lui des cas très compliqués. Aucun homme en Angleterre n'avait étudié l'anatomie du cerveau de façon plus approfondie. Je suis certaine qu'il connaissait la localisation de chaque centre. Il avait acquis tout ce que la science moderne pouvait lui apprendre. De temps en temps, dans des moments de confiance, il m'avait parlé de ses patients. J'aimais beaucoup l'anatomie, et j'aimais écouter ses explications, voir ses diagrammes, apprendre quelque chose du merveilleux mécanisme de cette chose la plus merveilleuse au monde, le cerveau humain. Je respectais M. Hertzley, mais il est vrai aussi que je le craignais. Lorsqu'il s'est fiancé à Leonora, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver un sentiment de consternation. Une fois, je me suis aventurée à aborder ce sujet avec ma patiente. « Je regrette que vous l'épousiez, lui dis-je. C'est un homme dur, et vous êtes pleine d'enthousiasme et de feu. Il va finir par étouffer votre jeunesse. » Elle s'empourpra, joignit les mains et me regarda sérieusement. « Pourquoi dites-vous cela ? » remarqua-t-elle. « C'est étrange de votre part. Maintenant, je vais vous avouer quelque chose. Je n'aime pas M. Hertzley. Je ne l'épouse que parce que mon père le souhaite. » « Vous lui avez dit ?»« Oui. Il connaît la vérité. Il sait que je ne l'aime pas. Tout mon amour est pour l'homme qui repose dans une tombe inconnue. Monsieur Hertzley comprend que si une chose aussi impossible que le retour de Dick Gifford devait se produire, je ne pourrais pas l'épouser. Dick ne reviendra jamais, bien sûr, et selon toute probabilité, je serai mariée à monsieur Hertzley dans 2 mois. Vous resterez avec moi jusqu'après le mariage, n'est-ce pas, chère infirmière ? » Je promis volontiers, car j'avais déjà appris à bien l'aimer. Un certain jour, peu de temps après cette conversation, je me trouvais seule lorsque la porte de la chambre où j'étais assise s'ouvrit, et M. Hertzley entra. Il regarda avidement autour de lui. Lorsqu'il vit que Léonora n'était pas présente, il leva les sourcils et vint à mes côtés. « Je veux vous dire un mot, infirmière Petre. » En parlant, il s'est assis près de moi. « Je veux vous faire confiance, » a-t-il dit. « J'ai un cas très critique dans ma clinique privée en ce moment. J'ai besoin d'une excellente infirmière qui sache être calme et ferme et qui comprenne son travail. C'est une question de vie ou de mort. Vous quitterez Mademoiselle Tréfusis demain et vous viendrez chez moi. » Je rougis de contrariété. « Je ne le peux pas, » répondis-je. « Léonora va mieux, mais elle est encore très dépendante de moi. Il y a des moments où sa maladie nerveuse l'emporte encore. »« Elle s'en remettra, » dit le chirurgien avec un mouvement d'impatience. « Mais j'ai promis de rester avec elle jusqu'après le mariage, » répondis-je. Quand j'ai parlé du mariage, une lueur de plaisir a rempli ses yeux noirs. « Il semble étrange, n'est-ce pas ? » dit-il d'un ton pensif. « Qu'une jeune fille aussi jeune et belle veuille à un homme comme moi ? » ?»« Elle ne veut pas de vous, c'est vous qui la voulez !» ai-je répondu avec audace. Il m'a regardé et a souri. Il avait un sourire lent, cruel. Il réduisait ses lèvres à la finesse d'une ligne droite. Il montrait ses dents blanches, qui m'ont toujours paru ressembler davantage à celles d'un animal qu'à celles d'un être humain. Puis il passait, laissant son visage serein, calme, puissant. « Infirmière Petre, vous êtes une drôle de femme, » dit-il, « trop franche pour votre profession. Un jour, cette franchise sera votre perte, dans votre position. » Il vous incombe d'être prudente. » Tout en parlant, il se leva. Le cas dont je veux que vous vous occupiez est difficile, et j'envisage une trépanation après-demain. Si je ne réussis pas, la victime deviendra folle. Cette opération est sa seule et unique chance. Vous viendrez chez moi demain soir. L'opération aura lieu le lendemain matin. Je vous ai dit que je m'occupais de Léonora. Ai-je dit, furieuse. « Je vais arranger la chose avec Mademoiselle Tréfusis. Je vous attends. Bon après-midi. » Il a souri à nouveau de cette manière énigmatique et a quitté la pièce. Tard dans la soirée, Léonora est venue me voir. « Je suis venue vous dire bonne nuit, chère infirmière, » a-t-elle dit. « Je suis très triste à l'idée de cette séparation, mais M. Hertzley doit pouvoir faire ce qu'il projette. »« Je suis désolée, » ai-je répondu. Elle s'est approchée de moi et s'est blottie contre moi. « Et moi aussi, je suis désolée, » a-t-elle dit. « Je regrette amèrement votre départ, mais Paul le souhaite. Il n'y a rien d'autre à faire. » Pensez-vous que vous devez obéir à M. Herzley en tout point ? Elle me regarda anxieusement. « Quand il devient sentencieux, je dois lui obéir, » dit-elle. « C'est une personne à laquelle il est très difficile de résister. Ne le trouvez-vous pas vous-même ?»«
Si, » dis-je. « Si. »
Et il y avait de l'effroi dans mon ton. Elle regardait droit devant elle, et je doute qu'elle ait entendu mes derniers mots. « Vous allez terriblement me manquer, » dit-elle enfin. « Ces symptômes nerveux qui sont ma torture risquent de revenir lorsque vos soins me seront retirés. » J'en ai parlé à Paul, mais il s'est contenté de sourire. Il dit que lorsque je serai sa femme, je ne ressentirai plus les troubles qui m'inquiètent à présent. Je suppose que ce sera le cas, mais, chère infirmière, je ne suis pas pressée de me marier. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas vraiment M. Herzley. L'homme que j'aime est celui qui a perdu la vie aux Indes. Je pense constamment à lui. Je ne l'oublierai jamais. Parfois, je suis possédée par la conviction qu'il n'est pas vraiment mort. Il me semble toujours possible qu'il revienne en Angleterre.
« Il est mort, » dis-je. « Je suis certaine qu'il est mort. Vous ne devez pas vous bercer de faux espoirs. Je vous souhaite tout le bonheur possible, Léonora. Il n'y a aucun doute que M. Herzley vous aime dévotement. »«
Il m'aime terriblement, » répondit-elle. J'aimerais qu'il ne se soucie pas autant de moi. C'est déprimant de prendre tant et de donner si peu. Mais venez dans ma chambre, chère infirmière. J'ai un étrange désir de vous montrer quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. » La photographie du capitaine Gifford. Après mon mariage, je n'aurai plus le droit de la regarder, mais d'ici là, je peux, je dois. Je la suivis dans sa chambre. Elle ouvrit un tiroir, en sortit un étui en maroquin, l'ouvrit et me le remit. Il contenait la photographie d'un homme d'une beauté remarquable. Le front était haut, les yeux grands ouverts, vifs et pleins de vie. La bouche était en partie cachée par une moustache, mais je pouvais deviner que ses courbes étaient douces. Et j'étais certaine que lorsque ce visage souriait, il était comme le soleil. « C'est un bon visage, » ai-je dit tranquillement, « le visage d'un homme courageux. Je suis désolée pour vous, Léonora. » Elle a levé les yeux vers moi, puis a soudainement éclaté en sanglots. Vers le soir du jour suivant, je la quittai et me rendis à la clinique de M. Herzley, qui se trouvait à côté de sa propre maison. Après avoir été conduite dans ma chambre et avoir pris quelques rafraîchissements, une domestique est entrée pour me demander si je voulais voir mon patient.
« Monsieur Herzley est sorti, » dit la femme. « Il a dit que si vous arriviez suffisamment tôt, vous aimeriez peut-être voir ce monsieur ce soir. » J'ai accepté de bon gré et, avec ma coiffe et mon tablier professionnel, j'ai suivi la jeune fille jusqu'à la porte d'une grande et spacieuse pièce au premier étage. Je frappai. Une voix virile me dit « Entrez !» et j'entrai. Un homme de grande taille s'est levé pour me recevoir. Une lampe était posée sur la table derrière lui. Son visage et sa silhouette étaient dans l'ombre. Il s'est avancé et m'a tendu la main. « J'ai entendu parler de vous, infirmière, » dit-il. « Vos aimables services sont donc à ma disposition ?»«
Oui, » ai-je répondu. « Je serai très heureuse de faire ce que je peux pour vous. »«
Asseyez-vous, » dit-il. « Je vous en prie. Monsieur Herzley vous a-t-il dit quoi que ce soit sur la nature de l'opération qui doit avoir lieu ?»«
Oui, il a dit que c'est une opération difficile, » répondis-je.
« Certes, c'est une question de vie ou de mort. Si je meurs, le monde sera débarrassé d'un invalide qui souffre. Si... par contre, je vis et me rétablis. Eh bien, j'ai beaucoup de raisons de vivre, vous comprendrez peut-être. »
Tout en parlant, il souriait. Il avait tourné son visage de façon à ce que la lumière de la lampe l'éclaire, et son sourire m'est apparu d'une façon tout à fait inattendue. Il transformait son visage, le rendant brillant et fascinant à un degré extraordinaire. J'avais l'impression curieuse et indéfinissable de l'avoir déjà vu auparavant, mais je ne pouvais imaginer ni où, ni quand. Je l'appréciais, je l'ai adopté de tout cœur sur le champ. Sa voix sonnait juste, je sentais que c'était un homme bon. « Je ferai tout mon possible pour vous, » lui dis-je avec enthousiasme. « Soyez-en sûr, j'ai une grande expérience des cas comme le vôtre. Vous souffrez d'un problème cérébral ?»«
Oui, en effet, » dit-il. Il y a 2 ans, j'ai reçu un coup violent sur la tête. Monsieur Hertzley croit qu'une certaine partie de mon cerveau est comprimée. Depuis mon accident, je souffre de terribles crises d'épilepsie. Si rien ne peut être fait pour me soulager, je serai bientôt dans un asile d'aliénés. Sort terrible, auquel je préfère la chance qu'offre le scalpel du chirurgien. Même aux Indes, j'ai entendu parler de l'habilité du docteur Hertzley. Et j'ai résolu de venir le voir dès que je pourrais remettre les pieds dans mon pays natal. C'est ce que j'ai fait, et me voici.
« Cela fait longtemps que vous êtes revenu ?» demandai-je après une pause.
« 15 jours seulement, » dit-il. « J'ai eu de curieuses aventures dont je vous parlerai une autre fois. Lorsque j'étais avec mon régiment, j'ai reçu le coup sur la tête dont je viens de parler. On me croyait mort, mais... j'ai été fait prisonnier par la tribu des... »
Il s'interrompit brusquement.
« Je ne dois pas parler trop longtemps, » dit-il. « La moindre excitation provoque une crise. Peut-être, infirmière, pourriez-vous aller dans ma chambre et déballer quelques-uns de mes vêtements ? Voici les clés. »
Il tira un trousseau de sa poche, me donna quelques indications, et j'entrai dans sa chambre qui jouxtait le salon. C'était une pièce bien meublée. Un grand porte-manteau de voyage était posé sur une paire de tréteaux près de la porte. Je l'ai déverrouillé et j'ai commencé à ranger les vêtements de mon patient dans les différents tiroirs qui étaient prêts à les recevoir. Au fond du porte-manteau, j'ai trouvé une petite mallette en cuir. En la sortant de son emplacement, elle m'est tombée des mains. La bande de cuir s'est cassée et l'étui s'est ouvert. Son contenu s'est éparpillé sur le sol. Vexé par ma maladresse, je me suis baissé pour le ramasser. Parmi une pile d'enveloppes et de feuilles de papier se trouvait une photographie. Je l'ai prise pour la replacer dans l'étui, puis je me suis arrêté. J'ai poussé un cri et courant vers la lumière, j'ai regardé avec avidité le visage qui se révélait soudain à moi sur le petit morceau de carton. C'était le visage bien connu et très beau de ma chère patiente, Léonora Tréfusis. Mon cerveau semblait tourbillonner. Pendant un moment, je ne pouvais pas penser distinctement. Puis, comme un éclair, la vérité, ou ce qui semblait être la vérité, m'est apparue clairement. L'homme que j'étais sur le point de soigner venait de rentrer d'Inde. Là-bas, il avait vécu d'étranges expériences, avait été blessé au combat, fait prisonnier. Je joignais les mains. L'excitation m'envahit presque. Était-il possible que je sois sur le point de soigner l'ancien fiancé de Léonora ? Allais-je avoir la délicieuse tâche d'apporter le bonheur à la jeune fille que j'aimais le plus au monde ? Mais je devais m'en assurer. Ne rien faire d'inconsidéré. Je retournai dans le salon.
J'ai déballé vos affaires, dis-je au patient. Vous trouverez tout en ordre dans les différents tiroirs. À propos, pourriez-vous me dire votre nom ?
Mon nom ? Oh, capitaine Gifford, dit-il brièvement.
Il avait l'air inquiet et je n'ai pas osé le déranger davantage. Je savais pourtant la vérité, mon cœur battait la chamade. Je me suis excusée et un instant après, j'ai quitté la pièce. Il était près de 10 heures du soir, mais il n'était pas encore trop tard pour que j'aille voir Léonora et lui dise ce que j'avais découvert. Je me précipitais dans ma chambre, je mis mon manteau et mon bonnet et j'allais descendre l'escalier quand j'entendis un verrou dans la serrure et Monsieur Hertzley entra.
Ah, infirmière, dit-il, je suis content que vous soyez là. Avez-vous vu le patient ?
Oui, ai-je répondu. J'ai été avec le capitaine Gifford pendant un petit moment, j'ai déballé ses affaires. Je ne pense pas qu'il ait envie d'être dérangé cette nuit encore et...
« Vous sortez ?» dit-il, en haussant les sourcils d'un geste interrogateur.
« Je suis impatiente de voir Mademoiselle Trefusis, » répondis-je. « Il n'est pas trop tard et j'ai des nouvelles pour elle. »
J'ai essayé de parler calmement. Je me suis dit que je devais faire attention, mais malgré moi, ma voix tremblait. J'étais terriblement excitée et je ne pensais pas à M. Herzley dans cette affaire. Il me regarda fixement, puis il parla.
« Je ne peux pas vous autoriser à sortir maintenant, » dit-il d'un ton froid. « L'opération doit avoir lieu tôt, demain matin, et il y a beaucoup à faire. J'aimerais aussi discuter de ce cas avec vous. Veuillez vous rendre dans mon cabinet de consultation. Je vous rejoindrai dans un instant. »
Tout en parlant, il traversa le hall, ouvrit la porte de son cabinet de consultation et me fit signe d'entrer. Je suis entrée. Il a fermé la porte derrière moi. La lumière électrique était allumée. L'endroit était lumineux et pourtant effroyable. Un étrange pressentiment de danger à venir me visitait. J'eus peu de temps, cependant, pour y céder, car quelques instants après, M. Herzley entra dans la pièce.
« Maintenant, infirmière, me dit-il, je suis prêt à m'occuper de vous. Vous voulez voir Mademoiselle Trefusis et vous parler de nouvelles. Que voulez-vous dire ?»«
J'ai fait une découverte extraordinaire, » ai-je dit. Il m'a jeté un regard fixe, puis a dit, de cette voix qui m'a toujours inspiré à la fois crainte et respect, « Vous êtes une excellente infirmière, mais il est dommage que vous soyez si nerveuse. L'excitation est mauvaise pour une femme dans votre profession. » Quelle découverte avez-vous pu faire dans cette maison qui puisse provoquer ce tremblement dans votre voix ?
Je reconnais que vous êtes une bonne infirmière et vous ne le resterez pas longtemps si vous laissez vos sentiments prendre le dessus sur vous.
Ne vous occupez pas de moi maintenant, dis-je avec impatience. Je veux vous poser une question.
Posez-la.
Si tout va bien, vous avez l'intention d'épouser Léonora Trefusis dans 6 semaines, environ.
Avez-vous perdu la raison, infirmière ? Bien sûr que j'épouserai Mademoiselle Trefusis, mais pourquoi faire allusion à un fait que vous connaissez très bien ?
J'ai autre chose à dire, ai-je interrompu. Vous êtes fiancée à elle à une condition.
Cela ne vous regarde pas ?
Il se trouve que c'est mon affaire, ai-je répondu. Vous êtes fiancée à Léonora à une condition. Elle a promis de vous épouser uniquement parce qu'elle croyait que son ancien fiancé était mort.
Oh, vous faites allusion à cette ancienne affaire, a dit M. Herzley, avec une note perceptible de soulagement dans la voix. Je ne connais même pas le nom de l'homme, mais Léonora a parlé d'une liaison avec un soldat. Le type, quel qu'il soit, est mort cependant. Je lui ai certainement dit que si une telle chose devait arriver, comme le retour à la vie d'un mort, je serais obligé, par honneur, de l'abandonner.
Et vous n'avez jamais demandé le nom de son fiancé ? Demandai-je ?
Non. Le sujet ne m'intéressait guère, je voulais l'éviter. Avant que Mademoiselle Trefusis soit ma femme depuis 3 mois, elle aura oublié que cet homme a existé. Ma passion lui sera tout acquise.
« Monsieur Herzley, dis-je, vous devez être prêt à recevoir un coup. L'ancien fiancé de Léonora existe. Il est vivant. Il est revenu des portes de la mort. Il est dans cette maison. Son nom est le capitaine Gifford. »